5h58, Mathieu Noël.
Et cette bonne nouvelle, Céline, concernant la météo, on va dépasser la barre des 20 degrés quasiment partout cet après-midi. Vous vous en prenez l'engagement solennel ce matin.
Non, mais c'est vrai, 21 degrés à Bourges, à Metz, à Clermont-Ferrand, 22 à Paris, 23 pour Rennes ou Grenoble, 24 à Cognac, 25 à Marseille et même 26 degrés du côté de Montpellier. Ce matin, encore un petit peu de fraîcheur par endroit, mais la moyenne va tout de même de 10 à 18 degrés du nord au sud, avec 12 degrés en ce moment à Paris.
Côté ciel, c'est plutôt sympatoche.
C'est vrai, de larges éclaircies sur tout le pays après dissipation de pas mal de brouillard ce matin. On aura du vent près de la Méditerranée, il y aura un petit bémol et ça toute la journée sur les Alpes-Maritimes. Des averses ce matin, un risque orageux cet après-midi. Et puis le soleil va briller lui largement pour la moitié sud. Un petit peu moins de soleil pour la moitié nord puisque les nuages vont revenir, surtout entre la Normandie et les Ardennes en passant par l'Île-de-France. Mais l'impression de beau temps va être quand même très agréable pour tout le monde.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h au sommet de l'info, mais aussi, et c'est là notre différence, au sommet de l'humour. Et accessoirement de la modestie. Sommet humoristique, disais-je, qu'on doit beaucoup à ma plume. Plume alerte, plume caustique, mais plume tête en l'air aussi. Car oui, à force d'écrire des centaines de lancements, parfois en me relisant, je constate que j'ai totalement oublié ce que j'avais écrit, comme hier. À suivre, le tour du monde en 80 jours, c'est Jules Verne. Le tour de la presse en mode zapping, c'est nous. La comparaison est-elle excessive? Vous nous direz, personnellement je suis confiant. C'est drôle ça, si j'ai jamais écrit ça moi. J'ai écrit ça? Mais quel génie. Heureusement, les amis, Debout les copains, c'est aussi un vrai génie. Victor Hugo, l'auteur des Misérables, s'éteignait un 22 mai, c'est en 1885, Fabrice Almeida, le monsieur histoire d'Europe 1, revient sur un destin hors du commun qui finira au Panthéon.
Merci d'écouter Europe 1 ce mercredi 22 mai. Et très bon réveil, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 22 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Céline.
Les meetings politiques s'enchaînent à quelques jours de l'élection européenne. Hier soir, Marine Le Pen a appelé au vote utile contre Emmanuel Macron. Un CRS renvoyé aux assises pour violence volontaire. Il avait utilisé une grenade de désencerclement. Un manifestant avait perdu un œil. C'était en septembre 2016. Et puis l'ambassadeur du Vatican en France, attendu dans les locaux de la police judiciaire aujourd'hui à Paris, il va être confronté à trois hommes qui l'accusent d'agression sexuelle.
Europe 1.
Marine Le Pen était hier soir en meeting dans Lyon à Villeblevin. La patronne du Rassemblement National a sonné la mobilisation générale et joué un argument, le vote utile anti-Macron. Le reportage d'Adrien Beck pour Europe 1.
À 5 jours du scrutin, plus question de faire dans la nuance le vote utile anti-Macron, c'est moi. Voilà le message de Marine Le Pen qui appelle ses militants à aller chercher les voix chez ses adversaires comme les Républicains.
Ils sont sous la coupe de la CDU de Mme Merkel. Ils obéissent aux consignes de vote qu'on leur donne. Qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 11, ça changera rien.
Les Gilets jaunes, eux, sont invités à préférer le RN au parti de Jean-Luc Mélenchon.
Quant à la France insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste,
Marine Le Pen qui n'épargne pas non plus les petites formations souverainistes, pourtant très loin dans les sondages, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan.
Vous avez encore quelques jours pour aller dire à ceux qui veulent voter pour des petites listes qui ne feront pas les 5%, qui n'auront donc pas d'élus, que leur voix va être gâchée.
Dans la salle, Sophie qui hésite entre patriote et RN a écouté attentivement.
La balance penche effectivement plutôt côté Marine Le Pen, c'est clair. Voilà.
Vote utile.
Oui. Pour faire barrage à Macron, ça c'est évident.
La jeune femme tempère, elle tient au Frexit, alors elle se laisse jusqu'à dimanche pour choisir. Villeblevin, Adrien Beck, Europe.
Et à 4 jours du scrutin, le Rassemblement National est devant La République En Marche. Selon un sondage BVA Orange pour Europe 1 et La Tribune, 23% des intentions de vote pour le parti de Marine Le Pen, 22% pour la liste En Marche. S'en suit ensuite Les Républicains avec 13%. La France Insoumise et les écologistes sont au coude à coude à environ 8%. En meeting également hier soir, François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, à Villeurbanne, s'en est pris, je le cite, l'incroyable narcissisme d'Emmanuel Macron, qualifié d'acteur de la dislocation de l'Europe.
Il est le représentant du pape François en France, Luigi Ventura, 74 ans, est attendu dans les locaux de la police judiciaire parisienne cet après-midi.
Il va être confronté aujourd'hui et demain à 3 hommes qui l'accusent d'agression sexuelle. Ils ont entre 23 et 40 ans, racontent des gestes totalement déplacés comme des mains aux fesses infligées en pleine cérémonie officielle. L'enquête pourrait tourner court en raison de l'immunité diplomatique de l'ambassadeur du Saint-Siège, immunité que le Vatican n'a pas levée pour l'instant. Benjamin est l'un des plaignants. Il s'est confié à Pierre de Cossette pour Europe 1.
Ça m'intéresse de savoir comment il va présenter les choses. Moi, je m'en souviens très très bien. Mes souvenirs sont solides et moi, je veux que cette personne me regarde dans les yeux et me dise sa version. Et je suis très très curieux de savoir s'il aura la même tête que la première fois que je l'ai vu. J'attends ce regard-là pour savoir si ce sera le même qu'il a eu pour moi juste après m'avoir touché les fesses alors qu'il était à côté de moi depuis 3 secondes. Et c'était un regard très, très tranquille, très bonhomme, un regard de père de famille aimant. Et ensuite, je veux que la procédure continue, c'est surtout ça qui est important. Parce que moi, je ne veux surtout pas que cette confrontation soit le point d'orgue de la procédure et qu'on s'arrête là et qu'ensuite, cette personne, d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers son statut d'immunité diplomatique, soit soustrait à la justice française. Moi, je veux qui soit présenté devant un juge.
Propos recueillis pour Europe 1 par Pierre de Cossette du service police-justice. Un CRS renvoyé aux assises en 2016 lors d'un rassemblement contre la loi travail. Il avait lancé une grenade de désencerclement. L'explosion avait grièvement blessé un manifestant. Ce dernier a perdu un œil. Le policier de 50 ans devra être jugé pour violence volontaire. 12 militants défenseurs de la cause animale placés en garde à vue hier après des vols et des dégradations commis ces derniers mois dans des élevages. Le parquet d'Evreux précise que les 12 personnes sont liées à l'association animaliste Boucherie Abolition.
L'Agence nationale de sécurité de l'environnement et du travail publie à l'instant un avis sur les risques d'un produit minéral classé cancérogène pour l'homme.
Oui, ça s'appelle la silice cristalline. Plus de 365 000 travailleurs en France y sont exposés régulièrement, principalement dans le BTP. Les précisions de Mélanie Gomez.
Le problème avec la silice cristalline, c'est qu'en fait, il y en a partout. C'est un minéral présent naturellement à la surface de la Terre et donc il se retrouve ensuite dans de nombreux matériaux, dans les sables, les roches ou même dans le granit. Résultat, plusieurs centaines de milliers de travailleurs y sont forcément exposés par inhalation dans beaucoup de secteurs, la verrerie, la métallurgie, dans les métiers de la peinture aussi, mais c'est surtout dans le bâtiment que les expositions à ces poussières sont les plus fortes quand les ouvriers percent du béton, découpent du carrelage. Au total, près de 30 000 travailleurs sont exposés à des niveaux très au-dessus des seuils autorisés, avec des risques énormes pour leur santé, selon Guillaume Boulanger de l'ANSES.
La silice cristalline est à l'origine d'une multitude de maladies, notamment des maladies respiratoires, la silicose, le cancer du poumon, mais d'autres maladies respiratoires également, et de maladies auto-immunes, donc ça crée des déséquilibres au niveau du système immunitaire. Et on a des doutes sur les maladies rénales.
Alors l'ANSES préconise des mesures pour limiter ces expositions, notamment des choses qui pourraient être mises en place sur les chantiers, par exemple des aspirateurs qui attraperaient à la source les poussières de silice pour éviter que les ouvriers ne les inhalent. Enfin, l'agence recommande aussi une meilleure surveillance médicale pour les travailleurs les plus exposés.
Mélanie Gomez.
Europe 1, il est 6h06.
Allez hop, on s'y met tous, c'est parti pour le No Plastic Challenge.
2 semaines pendant lesquelles on va essayer de limiter l'utilisation du plastique chez soi, dans les écoles, les lycées. J'ai vu, Céline, que vous aviez un gobelet en plastique. C'est mal.
C'est mal.
Oh,
objectif,
c'est mal.
Réduire collectivement notre impact. Buvez votre café d'abord. Notre impact classique. L'or d'Autriche s'est rendu dans une famille parisienne du 13e arrondissement qui a adopté des gestes devenus quotidiens.
Avec 3 adolescents à la maison, Laure Albertini et son mari achetaient plusieurs packs d'eau chaque semaine. C'est terminé. Aujourd'hui, toute la famille boit l'eau du robinet. Un filtre a été installé pour améliorer la qualité de l'eau. Les shampoings et gels douche en bouteille ont aussi été remplacés par des savons sous forme solide, sans emballage, et les économies sont importantes.
J'économise là chaque mois au moins, je dirais, 50-60 euros. Plus de shampoings en bouteille à n'en plus finir. C'est drastique. Très très vite, on voit la différence.
Celle qui pousse le plus pour limiter le plastique, c'est la plus jeune de la famille, Livia, 12 ans. Il lui arrive même de faire gentiment quelques remarques à ses parents.
Là-bas, l'emballage de la plante, par exemple, c'est du plastique. C'est énervant. Moi, c'est hors de question qu'il y ait une seule présence de paille dans cette maison. Je vois une paille, c'est fini. Quand je mange à la cantine, des fois, il y a des fromages dans des emballages plastiques. Ça me fait mal au cœur de devoir jeter ça à la poubelle après.
Et la prochaine étape pour cette famille, c'est d'acheter le plus possible des vêtements sans élastane ou sans polyester, car ce sont des matières qui contiennent des particules de plastique.
Un reportage signé Laure d'Autriche. C'était la montée des marches la plus attendue du Festival de Cannes.
Surtout
Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, côté de Quentin Tarantino pour le film Once Upon a Time in Hollywood. Un hommage émouvant au cinéma. 7 minutes d'applaudissements à la fin de la projection.
7 minutes d'applaudissements, c'est pas mal, mais c'est mérité pour Léo.
Et Brad, surtout Brad.
Très bien, c'était le journal.
On se calme.
C'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, alors que dans quelques instants, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, Fabrice Dalméda va revenir sur le destin de Victor Hugo, je vous propose de revenir sur l'hommage que Nikos Aliagas avait réservé à l'illustre écrivain et que, par votre perfidie, vous aviez quelque peu gâché.
Le mec, il a été exilé. La France l'a renié. Il a été conspué. Il est revenu en héros.
Un peu comme toi, Nikos.
Vilaine, elle est mesquine.
Europe 1.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Aujourd'hui, je le disais, Fabrice Dameda revient sur le mythe Victor Hugo, mort un 22 mai. C'était en 1885, après une vie passionnante à tout point de vue.
Bon réveil à tous, il est 6h09. Il est 6h10, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Le soleil est de retour.
Mais oui, alors de façon modérée quand même, hein, parce qu'on aura encore pas mal de nuages, des brumes ce matin qui vont résister. Du coup, le ciel sera souvent voilé. Et ça sur la moitié nord, puisque sur la moitié sud, là, il va briller largement avec du vent près de la Méditerranée. Il va se couvrir un petit peu plus dans l'après-midi de la Normandie aux Ardennes en passant par l'île de France. Mais l'impression qu'il va se dégager de cette journée est quand même très agréable et très douce, puisque la moyenne ira de 20 à 26 degrés du nord au sud pour cet après-midi.
Merci Céline Evaroc.
À l'occasion des derniers débats pour les élections européennes, on vous a demandé ce matin comment je vais y arriver.
Ou pas,
qu'est-ce qui symbolisait pour vous l'Europe? Qu'est-ce que nous avons en commun? Oh là là, on a en commun la fatigue.
Si quelqu'un, en tout cas, la question du jour, c'est si quelqu'un a compris la question d'Evaroc.
Voilà,
39-21.
39-21, voilà. Oui, exactement. Non, c'est quoi l'Europe pour vous, tout simplement?
Voilà, reformuler tout simplement. C'est
bien
plus simple.
Sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, Géraldine nous dit notre point commun, c'est notre histoire, notre mémoire qui nous fait réagir quand la démocratie est en danger. Et puis Olivier, toi, de façon plus drôle, nous dit: pour moi, l'Europe, c'est passer de pays en pays sans se soucier de faire attention à sa consommation de 4G. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi.
C'est vrai que c'est bien vu. Merci.
Merci beaucoup.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Longtemps, sa seule présence suffisait à enflammer le cœur, et parfois plus, de Céline Dacosta. Seulement voilà, grâce à lui, Céline a découvert des sportifs encore mieux bâtis que Jérôme Lacroix. Jean-Pierre Marielle disait:
virtuellement toute femme est sexuellement insatiable.
Il n'avait pas tort.
Kevin Mayer va rendre public son suivi médical. Je vais bien le suivre, moi, médicalement parlant.
Mais c'est Brad Pitt, Kevin Mayer, Leonardo DiCaprio, ils vous les faut tous. Jérôme Lacroix, vous l'avez sous la main. Prenez ce que vous avez sous la main. Jérôme Lacroix, passons au journal des sports.
Sans transition.
À la une, une folie sang et or à Paris.
C'est à croire que le stade Bollaert avait déménagé hier soir de Lens au 13e arrondissement de la capitale. 7000 supporters lensois ont transcendé le stade Charletti, habituellement plus calme. Vous les entendez euphoriques après hier soir la qualification de leurs footballeurs pour le deuxième match des barrages d'accession de la Ligue 2 vers la Ligue 1. Ils éliminent le Paris FC et ça s'est joué au tir au but, 5-4, un partout à l'issue de la prolongation. Alors, certains fans sont parvenus à franchir les barrières. Début d'envahissement du terrain, mais pas d'incident. Plutôt un chant. Cette communion entre supporters et joueurs avec les corons de Pierre Bachelet, chanson que les fans lensois ont fait leur, hein, tant elle dépeint avec fidélité ce que c'est que vivre dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Moment singulier de fierté pour le capitaine de Lens, Guillaume Gillet, auteur du tir au but décisif et ému par le soutien des fans.
C'est génial parce qu'ils font des sacrifices énormes pour venir nous encourager. Quand on voit la tribune lensoise aujourd'hui, c'est fabuleux. On n'a pas envie que la saison s'achève.
Et forcément des joueurs lensois aux anges dans le vestiaire après le match.
Alors c'est un premier pas vers la Ligue 1, mais le chemin est encore long.
Prochain match, 3 Lens vendredi dans l'Aube. Et encore après ce match-là, il faudra battre lors d'une confrontation aller-retour l'équipe qui finira 18e de Ligue 1, Dijon, Caen ou Amiens. Très vraisemblablement, on le saura vendredi à l'issue de la dernière journée de première division.
Qu'est-ce qui fait rire Evaroc et Céline Dacosta? Vous savez quoi? Vous savez quoi, chers auditeurs? Je préfère ne pas le savoir. Le tennis, et oui, il est bien là.
Oui, il est bien à Roland-Garros. Roger Federer, le champion suisse de retour après 4 ans d'absence, porte d'Auteuil. Il s'est entraîné hier sur le tout nouveau cours central, rénové le cyclisme. Et il intègre un club très sélect, celui des Français, vainqueurs d'étapes sur le Tour cycliste d'Italie, 10 seulement ces 20 dernières années, dont le Picard Arnaud Démare, victorieux hier au sprint de la 10e étape.
J'ai rempli la mission qu'on s'était donnée avec l'équipe de venir sur le Giro pour remporter une victoire. On n'a pas perdu confiance, on est resté soudés, on a réussi déjà des beaux exploits ensemble, donc on a su rester concentré et marquer un gros coup aujourd'hui.
Et aujourd'hui, direction le Piémont pour le peloton, encore du sprint avant la montagne demain.
On termine, Jérôme, non pas avec le chiffre du jour, c'est dangereux aujourd'hui avec Evaroc et Céline Dacosta, mais
le chiffre 3,
avec l'histoire du jour.
Oui, c'est un footballeur et pas des moindres en une du magazine Têtu. En kiosque aujourd'hui, la star des Bleus, Antoine Griezmann, dit stop à l'homophobie dans le foot. Long entretien. L'homophobie, pas une opinion, mais un délit, dit-il en ajoutant: si un footballeur gay souhaite faire son coming out, il n'aura peut-être pas tous les joueurs de l'équipe de France à ses côtés, mais il m'aura moins.
Ça, c'est très bien. Très bel engagement que nous saluons. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et à l'heure de retrouver Fabrice d'Almeida, le monsieur Histoire d'Europe 1, je tenais à le remercier. Longtemps, j'ai pris les agrégés pour des personnes infaillibles. Grâce à lui, j'ai découvert que c'était des êtres humains, comme vous et moi. Découvrez notre nouvelle séquence, d'Almeida la ramasse.
Alors là, c'est le règne de la CIA et de ses, de ses agents secrets.
Il est des noms. Voici Fabrice d'Almeida.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour à tous.
Le 22 mai 1885, Victor Hugo meurt en son hôtel particulier situé avenue Victor Hugo. L'artère portait en effet son nom depuis 1881. En quoi cette date historique est-elle toujours d'actualité ?
Ben en fait, ce 22 mai 1885, la République a vraiment basculé dans l'ère du peuple. L'émotion était si grande qu'il a fallu organiser des funérailles nationales et déconsacrer le Panthéon pour en faire la sépulture des grands hommes. Hugo, c'était la langue de la République, celle que les enfants apprennent depuis dans les écoles. Le rejet des dictateurs, comme Napoléon III, qu'il baptise Napoléon le Petit, l'éloge des révolutionnaires, comme cet enfant grec sur l'île de Kio, et l'exaltation de la démocratie, celle des misérables, celle des barricades.
Mais Hugo, il n'a pas toujours été républicain.
Eh non, il a même été monarchiste. Oui. Hugo a reçu une pension du roi Louis XVIII. Puis, il a été l'ami du roi Louis-Philippe, qui l'a fait pair de France. Mais tout change avec la Seconde République en 1848. De conservateur, il se métamorphose en défenseur du peuple. Il renonce même au bonapartisme auquel son père, ancien général d'Empire, l'avait initié. Quand il voit l'injustice des mesures prises par Louis-Napoléon Bonaparte, son coup d'État de 1851. Il préfère l'exil à la soumission et ne reviendra en France qu'avec la nouvelle République en septembre 1870.
Il s'est exilé sur l'île de Guernesey, au Royaume-Uni.
Oui, et c'est sûr...
Il est des nôtres.
C'est contagieux. Et c'est sur cette île qu'avant de partir, le 14 juillet 1870, il avait planté le chêne des États-Unis d'Europe que l'on peut encore voir dans son jardin. Une idée, les États-Unis d'Europe, qu'il avait exprimée voici 170 ans, dès 1849. Et cette année... Sa maison de Guernesey, Hauteville House, entièrement restaurée, a rouvert ses portes. Elle nous rappelle combien ce poète qui avait chanté Notre-Dame fait partie de nos vies, au point que ses rêves sont devenus un projet des institutions sur lesquelles les Européens vont voter à partir de jeudi.
Merci beaucoup Fabrice d'Almeida. L'histoire, la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15 à l'heure où blanchit la campagne.
Oh. Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Et ça m'est venu comme ça, les enfants.
Ouais. Quel talent.
Debout les copains continuent. Deux heures d'actu et d'invités qui la font. Et aujourd'hui, en cette journée mondiale de la biodiversité, il faut le répéter, il y a deux types de réactions face à l'état de la planète. Soit, comme Céline Dacosta, à dire...
De toute façon, voilà.
Soit, prendre le taureau par les cornes et essayer de trouver des solutions. À 6h20, nous recevons Karim Lapp, président d'Agir pour l'environnement, biologiste, ingénieur, écologue, qui nous dira, Céline, qu'il n'est pas trop tard. Il n'y a pas que les États qui peuvent agir. Vous aussi, chez vous, vous pouvez œuvrer pour la sauvegarde des espèces en danger. On vous dit tout dans une poignée de secondes.
Très bon réveil, il est 6h18. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Les traitements pour maintenir en vie Vincent Lambert ont repris hier, conformément à la décision surprise de la Cour d'appel de Paris. Les parents, eux, ont demandé une nouvelle fois le transfert de leur fils dans un établissement spécialisé. Le Sénat a voté à main levée cette nuit en première lecture l'instauration d'une taxe sur les géants du numérique portée par Bruno Le Maire. Enfin, beaucoup de verres et plus du tout de voitures. Le passage du Trocadéro à la Tour Eiffel sera rendu aux piétons et végétalisé d'ici 2024, annoncière d'Anne Hidalgo lors de la présentation du projet de réaménagement du site de la Tour Eiffel.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce mercredi 22 mai. L'actualité, c'est aussi aujourd'hui la journée internationale de la biodiversité. Selon un rapport de l'ONU publié au début du mois, 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Bonjour Karim Lapp.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes président d'Agir pour l'environnement, expert de l'aménagement du territoire et biomiméticien. Ce qui va nous permettre de parler avec vous du constat, les dangers qui pèsent sur la biodiversité et des solutions. Solutions qui pourraient passer donc par l'imitation de la nature, puisque c'est ça, si je ne m'abuse, le biomimétisme. Vous nous expliquez en deux mots ?
Oui, tout à fait. Le vivant est quelque chose d'extraordinaire. Il est plein de ressources. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est important d'en prendre conscience. Et ce rapport de l'ONU nous aide à faire ce constat. Parce que dans le vivant, on va trouver tout un tas de sources d'inspiration, mais aussi de réponses à des besoins quotidiens. Hein. 80% de nos médicaments sont issus de la biodiversité. Mmh. Et c'est aussi parce que cette diversité nous permet de s'adapter aux évolutions de notre environnement, du temps, et y compris des changements que l'homme inflige lui-même à la planète.
Alors c'est quoi des exemples concrets de biomimétisme, donc de la technologie qui s'inspire d'êtres vivants ou de la nature? J'ai lu les drones mouches, le poisson robot, le kangourou bionique. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Alors ça, ce sont des innovations qui sont plus d'ordre technologique. Après, ce qui est intéressant quand on regarde le vivant, au-delà de la recherche technologique ou de l'innovation, ce qui est intéressant, c'est de trouver un mode de vie qui soit compatible avec notre vaisseau spatial, qui est la Terre, et l'endroit où on habite, et pour nos propres besoins. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de la diversité des espèces et du maintien de leur disparition, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la biodiversité, c'est indispensable à notre survie, à nous, être humains.
Alors pour revenir au constat fait par l'ONU, 1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction, c'est quoi votre sentiment face à ces chiffres? Est-ce qu'on peut raisonnablement rester optimiste aujourd'hui? Est-ce qu'on peut inverser la tendance encore?
Alors, je vais faire ma réponse en deux temps. La première, c'est que être vivant, c'est quand même assez formidable. Donc, je dirais que oui, c'est quand même. Il faut se rappeler que le vivant et être vivant, c'est être vivant parmi les vivants. Et par conséquent, il y a quand même un côté absolument merveilleux à la vie. Et donc, mieux la comprendre est une première étape pour arriver à agir face à une situation qui est, c'est vrai, absolument dégradée. Et il est extrêmement important d'être lucide par rapport à cette situation, mais les possibilités de changer sont encore à notre portée.
Mais alors par exemple, c'est quoi, qu'est-ce que vous préconisez?
Alors la première chose, c'est d'arriver à se rappeler que nous sommes vivants parmi les vivants. C'est-à-dire que quand on dégrade les conditions de l'environnement, c'est pas seulement celle des éléphants, des girafes ou d'espèces exotiques ou d'araignées où on peut se demander à quoi elles servent. Ce sont nos propres conditions de vie en fait qu'on atteint.
C'est l'impact sur nous qu'on a parfois du mal à voir. Voilà. Quand on dit des espèces disparaissent, on se dit oui, ben finalement, si c'est des insectes microscopiques, on dit on s'en fout, alors qu'en fait, tout est lié.
Ce que met en évidence ce rapport pour la première fois, alors que bon, le constat de la dégradation de la biodiversité n'est pas une nouveauté, c'est vraiment la question de l'interdépendance. C'est-à-dire qu'en fait, pour assurer notre propre existence, nous avons besoin des autres vivants, des autres espèces. Alors on va souvent penser aux girafes, aux éléphants, à la disparition des rhinocéros. Mais en fait, pour nous, au quotidien, il y a énormément d'autres espèces animales et végétales qui sont indispensables à notre survie. Pour manger, évidemment, ça c'est la première chose, mais aussi parce que en permanence, là, quand je vous parle, je suis, moi, en interaction, vous êtes en interaction avec des milliards d'êtres vivants.
Ah bon ? Des milliards ?
Mais où sont-ils ? Des milliards, ben ils sont sur vous, sur votre peau,
dans c'est mon quoi, les digestif. Micro-organismes, les bactéries, tout ça ?
Oui.
C'est ça ?
Oui. Et donc nous sommes vraiment dans une trame d'interdépendance au quotidien, même ici, là, dans un studio totalement artificiel, on est en interaction permanente avec le vivant, et donc on a besoin de ce vivant pour pouvoir assurer notre propre survie.
Alors aujourd'hui, la moitié de la population vit en zone urbaine. Qu'est-ce qu'on peut faire en ville pour protéger la biodiversité?
Alors, il y a plein de choses qui sont faisables. Alors les villes sont effectivement une des sources principales, enfin en tout cas l'urbanisation, de l'atteinte à la biodiversité, parce que les écosystèmes ont besoin d'espace et de fonctionnement. Et la première chose, c'est de se rappeler que les villes, au final, elles sont aussi dans la nature. Donc on a souvent tendance à penser qu'il faut réintroduire la nature dans la ville. Mais si les villes ne sont pas dans la nature, elles sont où?
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc les villes faisons partie de la nature. Et à partir du moment où on accepte cette position-là, on peut trouver des solutions intéressantes qui est de en fait, renouveler un contrat avec la nature. Non plus d'aller contre elle, mais de faire avec elle. Et c'est d'autant plus intéressant que souvent ça coûte moins cher et que ça nous rend des services qui sont gratuits. Et donc, finalement, intégrer le vivant au quotidien, c'est relativement facile. Alors, on peut le faire déjà aujourd'hui avec des actes très simples sur la consommation. Alors, il faut lire les étiquettes. Éviter l'huile de palme, par exemple, si on veut éviter la déforestation dans les pays tropicaux. Et au quotidien, ça peut être aussi des gestes comme ceux que, par exemple, on propose à Gère pour l'environnement, qui est de, par exemple, semer des plantes qui vont attirer et permettre aux pollinisateurs de trouver leur source de nourriture et de participer de façon active.
Fleurir son balcon, c'est déjà un acte, c'est pas seulement joli, c'est un acte écologique.
C'est un acte écologique et subversif.
Ah, subversif, ça me plaît ça. Qu'est-ce qu'il faut envisager en termes d'urbanisme pour les années à venir pour préserver la biodiversité dans les constructions de bâtiments? J'imagine que Il y a des évolutions maintenant, il y a des pistes pour sauver la biodiversité.
Oui, bien sûr. Alors, il y a des solutions techniques qui sont à l'échelle du bâtiment. On peut faire des habitats qui soient des habitats pour les hommes, mais aussi pour d'autres espèces animales. On peut penser à un urbanisme aussi qui s'inscrit dans les écosystèmes d'une manière globale à l'échelle régionale, parce que en ville, il faut se rappeler que l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ce qu'on mange, c'est pas magique, ça vient de quelque part, et ça vient de la capacité des écosystèmes à produire ces éléments-là. Donc c'est notre intérêt vraiment, l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, ce qu'on mange, ça nous constitue. Donc il n'y a pas de différence entre nous et l'environnement, puisque ce que nous sommes ce que nous mangeons. Donc ces questions-là sont absolument importantes, et au niveau de l'urbanisme, il faut évidemment intégrer le fonctionnement des écosystèmes dans la conception des villes.
C'est-à-dire, par exemple, vous auriez un exemple concret de,
bah, par exemple,
de cette intégration?
Si on prend le cycle de l'eau, on peut très bien aujourd'hui concevoir des villes qui intègrent un cycle de l'eau qui permet d'avoir une eau. Dans un écosystème, quand l'eau rentre, elle sort plus propre que quand elle est rentrée. Donc on peut très bien imaginer des villes qui sont en capacité en fait, de régénérer leur environnement et donc d'y participer.
C'est justement le biomimétisme. On y revient.
Oui, voilà. On y revient.
Merci beaucoup pour cet optimisme. Karim Lab, je rappelle que vous êtes président d'Agir pour l'environnement et spécialiste donc, du biomimétisme. C'est passionnant. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été au micro d'Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1. Il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec le journal du petit prodige de l'info. David Doucan, puis la météo. Globalement une belle journée, même s'il y aura des nuages cet après-midi sur la moitié nord.
Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo, Céline Dacosta, et comme prévu, sunshine is coming.
Mais oui, de larges éclaircies sur tout le pays, alors surtout sur la moitié nord, et après dissipation de pas mal de brouillard, il y en a dans le sud-ouest et aussi sur la moitié nord ce matin. Cet après-midi, on aura un risque orageux sur les Alpes-Maritimes, où il va déjà un petit peu pleuvoir sur le relief ce matin. Pour les autres, encore pas mal de soleil, sous un ciel parfois voilé pour la moitié nord, pour la moitié sud, là, grand soleil avec du vent près de la Méditerranée, et puis les nuages vont être un petit peu plus nombreux de la Normandie aux Hauts-de-France en passant par la région parisienne jusqu'aux Ardennes cet après-midi.
Et le thermomètre grimpe encore cet après-midi. Chaleur.
Oui, on va dépasser les 20 degrés quasiment partout. Hein. 21 à Brest, 22 à Paris, il en fera 23 à Lyon, 24 à Bordeaux ou encore 26 pour la maximale du côté de Perpignan. Et ce matin, encore un petit peu de fraîcheur par endroit, mais la moyenne reste tout de même douce. Hein. 10 à 18 degrés du nord au sud avec 12 degrés en ce moment du côté de Paris.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, tout savoir de l'info sans jamais oublier de s'en amuser. Deux heures d'actu et de rire, grâce évidemment au lapsus cocasse de David Doucan, mais aussi à l'accent niçois d'Eva Rock, qui parfois lui joue des tours. Le pire, c'est qu'il faut l'intervention embarrassée de Nicolas Caro, le monsieur livre d'Europe 1, pour qu'elle s'en rende compte.
Un collectionneur de cônes de chantier. Cônes de chantier ?
Cônes.
Bah oui.
Et oui, c'était un chantier où il y avait beaucoup de cônes. C'est comme ça, ça arrive. Heureusement, le sérieux s'apprête à reprendre ses doigts avec les trois fantastiques. Politique, économie, médias, chaque matin, offrez-vous de vrais points de vue sur l'actu. Aujourd'hui, notre expert éco Axel de Tarlet nous entraîne notamment aux États-Unis. Oui, oui, aux États-Unis où les jeunes générations sont de plus en plus pauvres et de plus en plus socialistes.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
La dernière ligne droite, plusieurs meetings de fin de campagne hier soir, le Rassemblement National, les Républicains, mais aussi Europe Écologie Les Verts qui a fait venir José Bové et Eva Joly pour essayer de convaincre notamment les électeurs En Marche. La calamité des déchets plastiques, un amas de plusieurs centaines de mètres a été repéré entre la Corse et l'île d'Elbe. Sommes-nous impuissants face à ce défi? La réponse dans un instant. Et puis, vous vouliez des stars, en voilà. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, sur le tapis rouge à Cannes, ils sont à l'affiche du dernier Tarantino.
Europe 1.
Vous avez rendez-vous dans 5 jours avec votre isoloir. Un rendez-vous qu'une majorité de Français n'a pas l'intention d'honorer, si on en croit les sondages qui prévoient jusqu'à 59% d'abstention. Alors, les partis jettent leur dernière force dans la bataille. Il s'agit de mobiliser son camp, mais aussi peut-être de convaincre les indécis. C'était le cas de la tête de liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, qui tenait meeting hier soir à Paris. Reportage Virginie Riva.
Non loin du cirque d'hiver, les militants écologistes distribuent des tracts juste à côté des marcheurs. Le match pour les écolos dans cette dernière ligne droite, il est surtout avec En Marche qui a verdi sa liste. D'ailleurs, Yannick Jadot réserve tous ses coups à Emmanuel Macron.
Depuis 2 ans, le président Macron a toujours arbitré pour la chasse, pour les pesticides, pour le nucléaire. Alors l'écologie de la promesse, de l'inaction, merci, allez voir ailleurs.
Les députés européens Eva Joly puis José Bové viennent défendre leur bilan. José Bové qui insiste sur l'importance d'avoir un groupe vert fort au Parlement européen.
Que ce soit sur la pêche, sur les perturbateurs endocriniens, sur les OGM, s'il n'y avait pas eu les écolos pour mener la bataille au départ, jamais ces textes ne seraient passés.
Et malgré les sondages en dessous de 10, les militants veulent encore y croire.
Il y a une marche samedi et un certain
nombre de débats dans la semaine qui vont permettre aux indécis de se décider.
Les dernières européennes, c'est une semaine avant les élections, on était à 8% et le jour J, on était pratiquement au double. Ça peut être pareil.
Tous reprennent l'expression de Yannick Jadot. Pour eux, dimanche, ça sera le vote du siècle.
Virginie Riva pour Europe 1. Les Républicains et le Rassemblement National étaient eux aussi en meeting hier soir à Villeblevin dans l'Yonne. Marine Le Pen a appelé les Gilets jaunes à voter pour sa liste. Elle les a enjoints à se détourner de la France insoumise qu'elle a surnommée, je cite, « la France islamiste ». Rassemblement National qui arrive en tête de notre sondage BVA Orange pour Europe 1 et La Tribune avec 23% des intentions de vote. La République En Marche, 22% juste derrière. Troisième et stable, la liste Les Républicains avec 13 points. Score serré entre la France insoumise à 8,5% et Europe Écologie Les Verts à 8%. Mais attention, attention, parce qu'il y a beaucoup d'indécis, donc les choses peuvent évoluer. Écoutez Édouard Le Cerf, directeur général adjoint de l'Institut BVA.
Il y a un certain nombre de choses qui sont confirmées et d'autres qui restent un peu moins claires. La première confirmation, c'est naturellement le duo de tête, qui semble aujourd'hui favoriser plutôt le Rassemblement National. Il est un point devant, à 23%, la liste menée par Nathalie Loiseau pour La République En Marche. Donc une dynamique plutôt favorable, mais un duo de tête encore incertain, et les choses peuvent encore bouger d'ici dimanche. Et puis il y a une vraie volatilité. On peut avoir environ 4 électeurs sur 10 qui disent « eh bien moi je peux encore changer d'avis ». Ça veut dire qu'un certain nombre d'entre eux va se décider à voter, ou à ne pas aller voter au final. Et entre les listes pour lesquelles ils vont se décider au final à aller voter, eh bien ce sera peut-être un élément de dernière minute, quelque chose qui apparaîtra comme singulier pendant un débat, une prise de position. Ça peut encore faire bouger les choses sont un peu friables encore, et c'est assez étonnant, effectivement, à quelques jours du scrutin.
Édouard Le Cerf de l'Institut BVA avec Aurélien Fleureau pour Europe 1. Et enfin, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin n'est plus tenu à la réserve depuis qu'il a quitté le Conseil constitutionnel. Eh bien, il a appelé à voter pour la liste PS Place Publique menée par Raphaël Glucksmann. L'Assemblée nationale a achevé cette nuit l'examen du projet de loi sur la fonction publique. Un vote solennel en première lecture aura lieu mardi prochain à l'Assemblée. Donc, le texte vise à moderniser le statut des 5,5 millions de fonctionnaires et à instaurer un plus large recours aux contractuels. Aujourd'hui, c'est la journée de la biodiversité et l'une des pires menaces pour les espèces animales dans les océans, ce sont les déchets plastiques. Et ce n'est pas forcément loin de chez nous. L'Ifremer de Bastia vient de repérer un amas de plusieurs centaines de mètres entre la Corse et l'île d'Elbe. Écoutez, François Galgani, océanographe, il est l'un des scientifiques qui ont constaté les dégâts.
Si vous arrivez en bateau dessus, vous allez voir beaucoup de morceaux de plastique. Vous allez voir de la mousse parce qu'il y a du plancton qui se concentre à cette interface. Les plastiques sont dégradés, donc ils sont de mauvaise qualité. On ne peut pas les recycler. En plus, c'est des produits hétérogènes. C'est très très cher d'aller les chercher. Donc du coup, le bilan n'est pas très favorable à une récupération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne nettoie que lorsqu'il y a une valeur. Donc, par exemple, des filets perdus par des pêcheurs, on peut les réparer, on peut les réutiliser. Ça peut coûter très cher et donc aller les rechercher et les récupérer, là, je pense que c'est assez cohérent. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça s'accumule. Enfin, il y a toujours des... Ça revient régulièrement de manière chronique. J'ai l'impression, si vous voulez, que ça diminue relativement.
L'océanographe François Galgani avec Jean-Sébastien Soldaini.
À suivre dans ce journal, Theresa May, the force be with her. Eh oui, la Première Ministre a ouvert la voie à la tenue d'un nouveau référendum sur le Brexit. Nous serons à Londres dans un instant, à tout de suite.
Il est 6h36.
Europe 1.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Et si les Britanniques votaient à nouveau sur le Brexit?
C'est en tout cas une éventualité que Theresa May n'exclut plus. L'idée d'un nouveau référendum fait partie d'une série de compromis pour tenter de rallier à son plan de Brexit la majorité des députés. Voilà qui donne du baume au cœur aux militants d'un petit parti spécialement créé pour les élections européennes qui se tiendront demain au Royaume-Uni. Je vous parle du Change UK qui prône le maintien dans l'Union. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Pierre Herbulot.
Le premier scénario possible, c'est celui du bout du tunnel. Si l'accord est accepté et que les députés votent contre un nouveau référendum, alors le Brexit sera enfin effectif, probablement avant le 31 octobre comme c'est prévu aujourd'hui. Deuxième scénario, celui du retour à la case départ. Si l'accord est accepté début juin par les députés qui disent oui dans la foulée à un second référendum, alors les Britanniques retourneront aux urnes comme en 2016. Le dernier scénario, c'est celui du chaos. Si malgré les compromis de Theresa May, son texte n'obtient pas la majorité au Parlement, alors les interminables discussions, tractations, propositions sur le Brexit continueront, comme c'est le cas depuis 3 ans. Et vu les premières réactions des chefs de file de l'opposition qui voient là un piège politique de Theresa May, c'est bien ce scénario-là qui risque de se réaliser. Londres, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et veuillez excuser cette petite erreur. Vous avez eu l'explication de la nouvelle proposition de Theresa May. Le reportage sur le Change UK était prévu. Alors, c'est un reportage dans lequel on apprenait que ce petit parti ne recueillait que 5% des intentions de vote, ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, alors que le Brexit Party de Nigel Farage domine les sondages avec 34% d'intentions de vote. Parti qui défend donc exactement l'inverse, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne. Je vous emmène maintenant, Mathieu, à Cannes.
Oh oui.
À Cannes, tout simplement. Brad, Leonardo. Hein. Je parle de qui ?
De Brad Pitt et de Leonardo DiCaprio,
voilà,
bien sûr.
Margot Robbie et Quentin Tarantino étaient sur le tapis rouge, premier événement. Et seconde sensation, ensuite, dans la salle où était projeté Once Upon a Time in Hollywood, le dernier Tarantino, donc notre critique cinéma faisait partie des chanceux, il s'appelle...
Mathieu Charrier.
1969 a marqué un tournant à Hollywood, en raison notamment du massacre perpétré par les adeptes de la secte de Charles Manson. C'est donc cette année précise et cette trame de fond qu'a choisi Tarantino pour rendre hommage au cinéma hollywoodien sous toutes ses formes, celui qu'il aime. À travers le parcours d'une star sur le déclin, Leonardo DiCaprio, et de sa doublure, chauffeur, nounou même, incarné par Brad Pitt. Il y a donc question de série Z, de western spaghetti, de Bruce Lee aussi, tous les genres qui ont nourri dans sa jeunesse le jeune Quentin, alors employé d'un vidéoclub pour faire de lui le grand Tarantino que l'on connaît aujourd'hui. Once Upon a Time in Hollywood alterne donc des scènes hommage au cinéma, des questionnements sur qu'est-ce qu'être acteur. Il montre aussi la solitude qui frappe beaucoup de personnes dans ce milieu, enfermées, seules, dans leur belle villa hollywoodienne. Un film qui a le panache des Tarantino, mais aussi un petit côté nostalgique parfois, une once de tristesse même. Le réalisateur veut saluer tous ceux qui font le cinéma, devant et derrière la caméra, à travers ce film fleuve qui dure 2h39 et que Tarantino a mis 5 ans à écrire. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1.
Et c'est la fin de ce journal, mon cher Mathieu.
Merci, c'était le journal de David Doucan, journaliste en plein doute, qui a clairement perdu le mojo. Hier, après son triple lapsus de lundi, il avait à cœur de se rattraper en faisant preuve d'esprit. Seulement, ce qui est venu n'était pas franchement à la hauteur de l'excellence de sa production habituelle.
La chronique, elle s'appelle Les bons tuyaux, il faut que t'aies un...
Du coup, vous le surnommez Huggy ?
Non, elle a compris, mais ça ne fait pas rire. Moi non plus, je suis désolée.
Oui, aussi, David, il faut dire à votre décharge... Non, il faut dire aussi à votre décharge que Céline est très exigeante humoristiquement.
Mais il ne se démonte pas, hein.
Hein,
il se démonte pas.
Oui, bien.
Pourquoi il est en kit
voilà. Alors, le mieux, je pense, c'est qu'on oublie l'humour et qu'on passe à la météo assez rapidement.
Faisons comme
c'est
ça.
Mieux, je pense qu'on sera plus fort sur la météo aujourd'hui. C'est une belle journée.
Ben voilà, vous voyez, c'est une belle journée, surtout sur la moitié sud, hein, où le soleil va briller largement après dissipation de quelques brouillards dans le sud-ouest ce matin. Des brouillards, on en a aussi sur la moitié nord. Ils vont résister un petit peu. Du coup, le soleil sera un petit peu voilé cet après-midi. Et puis, on aura un petit peu plus de nuages de la Normandie aux Ardennes en passant par l'île de France. Mais quand même, la sensation de beau temps va bien être présente et les températures vont être douces puisque la barre des 20 degrés va être atteinte et souvent dépassée quasiment partout cet après-midi.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, chaque matin les trois fantastiques vous font partager leurs sentiments sur l'actu. Aujourd'hui on prendra la direction des États-Unis pour un scoop. Les nouvelles générations y seraient pauvres et socialistes.
Bon réveil à tous, il est 6h41. Il est 6h42, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Européenne, dernière ligne droite, plusieurs meetings de fin de campagne hier soir, les Républicains, Europe Écologie Les Verts et le Rassemblement National. Marine Le Pen a appelé les Gilets jaunes à voter pour sa liste, elle les a enjoints à se détourner de la France insoumise qu'elle a surnommée, je cite, la France islamiste. L'ancien Premier ministre Lionel Jospin n'est plus tenu à la réserve depuis qu'il a quitté le Conseil constitutionnel, il a appelé à voter pour la liste PS Place Publique menée par Raphaël Glucksmann. Enfin, l'Assemblée Nationale a achevé cette nuit l'examen du projet de loi sur la fonction publique. Un vote solennel en première lecture aura lieu mardi prochain. Le texte vise à moderniser le statut des 5,5 millions de fonctionnaires et à instaurer un plus large recours aux contractuels.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il brille au firmament du journalisme tel trois diamants dans la vitrine d'un joaillier de la place Vendôme. Voici les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Trois éditorialistes surmenés dont la légende dit qu'ils se retrouvent parfois en dehors d'Europe 1, le soir, dans des clubs privés pour d'intéressantes séances de team building où la souplesse semble être un élément clé.
Qui sera le maître? Qui sera l'esclave?
Oui, chacun ses meufs. C'est pas le sujet du moment, non. Alors, Mickaël Darmon a commencé par la politique. EDF se réorganise, en particulier sa filière nucléaire, avec un nouvel homme clé qui n'est pas n'importe qui.
Et oui, c'est la surprise du chef, comme on dit, l'arrivée de Cédric Lewandowski à la tête du parc nucléaire et thermique. Alors, avec tous les dossiers qu'il a gérés, hein, le bureau de Lewandowski est une légende au cœur de l'appareil d'État. Il Il est actuellement à la tête donc, du département innovation d'EDF, où il a fait toute sa carrière. Mais durant le quinquennat Hollande, il a été pendant 5 ans le très influent directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian à la Défense, qu'il a quasiment formé à ce poste. Cédric Lewandowski a une passion, la discrétion. Hein. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'une des personnes les plus influentes dans les coulisses de la machine de l'État, ce qui lui a valu évidemment quelques ennemis. C'est lui qui structure la politique africaine dans le sillage des opérations militaires du Mali et au Sahel. C'est lui qui change également la doctrine de négociation pour la libération des otages français en Afrique, n'hésitant pas à entrer en bras de fer avec le patron de la DGSE de l'époque. Et surtout, durant 5 ans, il a enfoncé toutes les positions de Bercy au canon pour gagner tous ses arbitrages financiers aux grandes dames d'un certain tandem, Alexis Kohler et Emmanuel Macron. D'où la première décision du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, en 2017, renvoyer Lewandowski à l'EDF. Depuis, de l'eau a passé sous les ponts. Emmanuel Macron a donné son feu vert pour que Cédric Lewandowski prenne la tête du nucléaire français, comme l'a proposé Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, reconduit dans ses fonctions. Un choix plutôt inhabituel, parce que ce Lyonnais, bientôt cinquantenaire, passionné de géopolitique, n'est pas issu de la tribu donc, du nucléaire.
Alors, c'est un poste éminemment stratégique, avec la loi sur l'énergie qui arrive à l'Assemblée en juin.
Et oui, avec la question cruciale, on va dire, du traitement des déchets nucléaires. Il va falloir que la décision enfin soit prise d'enfouir ou pas les déchets pour des milliers d'années. On en parle régulièrement à ce micro, hein, parce que ce sujet est majeur. Hein. Le sarcophage de Bure sera-t-il la meilleure solution? Les députés de la majorité posent la question régulièrement au gouvernement et les élus de sensibilité écologiste pointent un texte en général moins ambitieux qu'annoncé, alors que le programme de la liste Renaissance affiche aussi un souci de la transition énergétique. En réorganisant EDF avec une nouvelle gouvernance nucléaire, eh bien le gouvernement réaffirme que le nucléaire est une priorité pour maintenir à la fois une électricité abordable, malgré donc des tarifs qui augmentent, et surtout une indépendance en approvisionnement. C'est aussi la garantie de la souveraineté maintenue. C'est un enjeu d'ailleurs des élections de dimanche, donc les européennes à venir.
Merci Mickaël Darmon pour cette analyse politique. Mon cher Axel de Tarlet, on passe maintenant à l'économie avec cette information. Selon le Wall Street Journal, aux États-Unis, les jeunes générations sont pauvres et socialistes.
Voilà, et c'est, comme vous l'avez dit, le Wall Street Journal qui le dit. Donc c'est un article qui m'a interpellé, qui est relayé dans l'opinion. Article qui est intitulé « Millennial, la génération la moins riche de l'histoire ». Alors les millennials, vous savez, c'est cette génération qui aujourd'hui a 30
c'est vous
ans.
Ah, oui,
je
ne
crois pas que vous soyez millennial, il faut être né...
Axel, c'était pour... Il faut le dire, oui, c'est votre génération.
Ouais, voilà. D'accord, ouais, voilà, parce qu'il faut être né entre 1981 et 1996. Vous voyez,
c'est
donc, c'est la génération qui a dans les 30, qui approche les 40 ans, et dont le Wall Street Journal écrit qu'elle se trouve dans une situation financière pire que celle de toutes les générations qui les précèdent. Et c'est vrai que les chiffres sont impressionnants. Si vous regardez les salaires, eh bien, un jeune qui a 30 ans aujourd'hui en moyenne, il est payé 18% de moins, en corrigé de l'inflation, hein, qu'un jeune de 30 ans il y a 15 ans. En patrimoine, si les millénials, comparés à la génération précédente, et tout ça corrigé de l'inflation, le patrimoine moyen d'un millénial, il est de 30 à 40% inférieur à la génération qui le précède.
On parle des millénials aux États-Unis ou les millénials à l'échelle mondiale?
Non, c'est uniquement aux États-Unis, mais c'est intéressant parce que l'explication, elle est mondiale. Pourquoi les millénials aujourd'hui ont du mal à s'insérer dans le monde du travail? D'abord, vous savez que l'emploi est de moins bonne qualité. Aujourd'hui, ce sont moins des emplois d'industrie, mais davantage des emplois dans les services et ubérisés, c'est-à-dire où on est son auto-employeur. Et puis en plus, les millénials ont été fauchés par la crise de 2008. Alors vous savez très bien que le niveau de salaire auquel on vous embauche va vous suivre un petit peu ensuite toute votre vie. Donc c'est une génération qui est mal partie. Et puis sur le plan patrimonial, c'est une génération qui arrive après la hausse. Hein. Bah, aujourd'hui, la hausse de l'immobilier, elle est faite. Et donc quand on a 30 ans aujourd'hui, qu'on est jeune, qu'on veut acheter, c'est tout de suite hors de prix. Donc que ce soit sur le plan salarial ou sur le plan patrimonial, c'est une génération qui est mal partie avec des conséquences. C'est qu'il y a moins de propriétaires. Aujourd'hui, seul un tiers des millénials sont propriétaires, toujours aux États-Unis. Hein. Autrefois, c'était la même génération, les trentenaires, autrefois, la moitié étaient propriétaires. Et ça a des conséquences sociétales. Cette insécurité financière fait qu'aujourd'hui, on se marie moins aux États-Unis. Le taux de natalité est tombé aux États-Unis à son plus bas niveau depuis 32 ans. Je cite cette jeune femme de 32 ans qui est citée dans le Wall Street Journal de 34 ans. « Si je n'ai pas les moyens de me payer une maison, je ne peux certainement pas me permettre d'avoir un enfant. Et il y a même des conséquences politiques, vous les avez dites au début. Cette précarité montante fait que cette génération, et c'est le Wall Street Journal qui le dit, et qui utilise le mot tabou aux États-Unis, cette jeune génération devient socialiste. Sondage Gallup qui révèle que les millénials favorisent d'une courte tête les idées socialistes par rapport au capitalisme.
Ça, c'est un vrai revirement aux États-Unis quand même. Longtemps, c'était vraiment un gros mot, le mot socialisme. Voilà. Associé à communisme, quasiment.
Et donc, pour le Wall Street Journal, ça veut dire que dans une génération, à New York, on ne lira peut-être plus le Wall Street Journal, mais l'humanité ou la Pravda.
J'aime ce genre de conclusion, tout en nuance. Voilà. Merci, Axel Lou. Et Baroque, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Je voulais vous parler d'une émission qui s'appelle Dossier Tabou, qui est à voir sur M6 à 21h ce soir. Cette émission a été programmée la semaine prochaine en raison de l'actualité, à savoir l'affaire Vincent Lambert. Elle est finalement diffusée dès ce soir. Pendant un an, les équipes de journalistes de Bernard de la Villardière ont suivi des patients en fin de vie. Alors certains, par exemple, ont choisi de se faire euthanasier en Belgique, d'autres ont choisi le suicide assisté en Suisse, et puis dans le sud, à Gardanne, il y a une maison de soins palliatifs qui accueille ces malades. Dans cette structure, la douleur physique et psychique est particulièrement bien prise en charge. Les familles, par exemple, peuvent aussi loger avec les patients. C'est le cas d'Alexandre, il a 61 ans, il est en phase terminale d'un cancer du poumon, et ce qu'il dit est révélateur de la complexité du débat. Quand on lui demande, par exemple, s'il comprend les personnes qui se font euthanasier, écoutez sa réponse.
Ouais, faire euthanasier, oui, je pense que c'est une bonne idée, hein, dans la mesure où quand tu souffres ou quand tu as ras-le-bol, c'est bon. Par contre, quand tu peux avoir un traitement sur lequel ils te mettent une dose suffisante pour que tu souffres plus, ça vaut le coup.
Et oui, parce que quand on lui demande si lui, il a envisagé cette solution, eh bien voici sa réponse.
Chaque jour que je pourrais voler, je le volerai. Et ici, c'est bien, on t'aide à le voler. On t'aide à le prendre.
Et ce témoignage est symptomatique de ce qui se passe dans ce documentaire, c'est-à-dire qu'il est très réussi parce que la nuance, elle a sa place à chaque seconde. Toutes les certitudes des malades deviennent en fait des doutes pour la plupart d'entre eux, parce qu'on comprend en fait le cheminement de chacun d'eux, mais aussi à quel point ces questions affectent aussi l'entourage, évidemment. Et puis les médecins, vous verrez à quel point aussi c'est compliqué pour eux de gérer ces dossiers. Chaque démarche est extrêmement bien expliquée. J'ai été frappée par cette femme médecin belge qui accepte de pratiquer des euthanasies et qui raconte que sur les 10 patients qu'elle reçoit, en fait, elle ne va en aider qu'un seul à partir. Et les autres, me direz-vous, eh bien en fait, les autres, ils décèdent naturellement. Mais l'idée même de préparer leur mort, d'avoir la possibilité de choisir, en fait, les aide à vivre ces derniers moments avec un peu plus de sérénité. C'est des témoignages extrêmement éclairants. Le documentaire est très fort. Ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Pour les réponses, sincèrement, chacun doit voir et doit, en fonction de ses principes, essayer de trouver une solution. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est à voir sur M6 à 21h ce soir.
Merci beaucoup Eva Roque, merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine dans quelques minutes. Je céderai la place à Nikos Aliagas pour la matinale d'Europe 1. Nikos qui s'étant finalement rendu à l'évidence, à savoir que je disposais de tous les enregistrements, de tous les micros, même pendant la pub, pouvait tirer deux conclusions. Soit ne plus rien dire du tout de compromettant, soit s'en foutre complètement. Je ne le féliciterai jamais assez d'avoir choisi avec Céline Kallmann la deuxième option.
Bonsoir, tu danses ?
Bonsoir.
Vous voulez juste vous reposer un whisky ?
Oui, on va s'arrêter là pour l'instant. Le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale à suivre.
Il est 6h52. Il est 6h54. Mathieu Noël.
Quand Debout les copains s'achève et qu'un terrible vague à l'âme vous envahit à la perspective de ne plus nous entendre avant demain matin, dites-vous que Céline Dacosta, elle reste, comme dirait Laurent Cabrol.
Et il va falloir se la farcir pendant encore quelques heures.
Oui, voilà ce que vous pouvez vous dire. Et surtout, Nikos Aliagas arrive. Nikos, votre soleil matinal, un entertainer capable de relever tous les défis, y compris vous donner la pêche un matin de la mi-mai qui ressemble à un soir de la mi-décembre et où même Laurent Cabrol semble avoir perdu l'espoir de revoir un jour le soleil.
Dans l'autre partie de la France, peut-être, je sais pas, dans le sud, est-ce qu'il fait beau ce matin ?
Non, il fait beau nulle part.
Magnifique. Merci d'être venu.
Que ferions-nous sans l'entrain de Nikos ? Et Nikos a du mérite car il est physiquement à bout.
Il y a une lune là, hein, je crois. Je me suis réveillé 2-3 fois en pensant que j'étais en retard. Donc, ouais, la lune me déglingue.
Non, la lune le déglingue. Non, mec, t'es juste matinalier en fait. T'as des horaires à la course, ça n'a rien à voir avec la lune. Vous croyez en Dieu ?
Il est en régie, il nous écoute.
Eh bien, priez. Il y aura peut-être un effet placebo. En tout cas, belle prestation hier. La direction vous transmet ses compliments. Vous avez parfaitement respecté la nouvelle ligne éditoriale. On vous avait dit qu'il fallait rendre les sujets des journaux plus sexy. Bon, alors là, c'est sûr, hein, c'est plus sexy. Attention quand même, que ça ne vienne pas n'importe quoi non plus.
C'est dingue, mais c'est quoi le secret des Suédois?
Je vais vous emmener chez Marie-Louise. Elle est suédoise, mariée à un Français. Dans sa famille, ça fait 15 ans déjà qu'on a installé une pompe à chaleur. On va aller en cuisine maintenant. Et ça se passe sous l'évier.
Tout le monde fait ça?
Alors, Suède, oui, tout le monde fait ça. Beau pays, on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Enfin, je tiens ce matin, amicalement, solennellement, à vous remercier. Grâce à votre sens de l'autodérision et à celui de notre collègue Céline Kallmann, avec qui vous faites semblant de fricoter chaque matin, vous avez permis à ce débrief d'entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension où je n'ai plus à créer de montage sonore, puisque vous me les livrez clé en main, et jusqu'à présent en tout cas, sans me faire payer.
Bonsoir Céline.
Bonsoir Nikos.
Tu danses?
Non, je préfère garder le sac de ma copine.
Mais on peut danser avec le sac de ta copine, ça ne
Attends,
me dérange
pas. Attends, la refais, ça va pas. Mais il va prendre la meilleure.
Bonsoir mademoiselle, vous vous appelez comment?
Bonsoir. Non, le bonsoir va pas, là, il manque de...
Bah ouais, ça manque de...
Vas-y, refais, refais.
Bonsoir.
Bonsoir.
Non, non, mais je voulais juste vous proposer un whisky.
Juste un doigt.
Quand on pense qu'à Cannes, ils vont se prendre la tête pour savoir qui va avoir le prix Merci. D'interprétation. Moi, Merci. je vous le donne directement. Merci.
La palme d'or. Mathieu Noël, merci, cher ami.